Chapitre 12. Charme. Quétricaine des Montagnes fut mariée au roi servant Vérité des six duchés avant d'avoir atteint sa 20e année. Leur union était un arrangement politique qui faisait partie d'une négociation à plus vaste échelle destinée à sceller une alliance commerciale et militaire entre le royaume des Montagnes et celui des six duchés. La mort du frère aîné de la jeune femme à la veille de ses épousailles apporta un bénéfice inattendu aux six duchés. Désormais, l'héritier auquel elle donnerait naissance coifferait la couronne des Montagnes en même temps que celle des six duchés. Le passage du rôle de princesse montagnarde à celui de reine d'un royaume étranger fut difficile, mais elle l'affronta avec cet esprit de soumission au devoir qui est la marque des souverains de son pays d'origine. Elle se rendit seule à Castelserre, sans même une femme de chambre pour l'assister, avec pour tout soutien les coutumes dans lesquelles elle avait été élevée. Ces coutumes l'obligeaient à se tenir toujours prête à se sacrifier, quelle que fût la forme de sacrifice que sa nouvelle condition exigeait d'elle, car dans les montagnes, c'est le rôle admis du monarque. Il est l'oblat de son peuple. La reine montagnarde, de Bédel. La nuit tirait vers l'aube quand je descendis l'escalier dérobé qui me ramenait à mon lit. J'avais le crâne farci de renseignements dont bien peu paraissait présenter la moindre utilité pour résoudre l'énigme qui m'était soumise, et j'avais décidé d'aller me coucher. À mon réveil, mon esprit aurait trouvé le moyen de faire le tri dans cet embrouille à mini. Je parvins devant le panneau qui ouvrait sur ma chambre et m'arrêtai. Imbre m'avait déjà enseigné les précautions à prendre lorsque j'empruntais les passages secrets, et retenant ma respiration, je jetai un coup d'œil par une fente infime entre les pierres. La vue extrêmement réduite que j'avais de ma chambre me révéla une chandelle qui goûtait sur une petite table au milieu de la pièce et rien d'autre. Je tendis l'oreille, mais ne captai aucun bruit. En silence, je soulevai un levier qui mit en branle des contrepoints invisibles. La porte s'ouvrit et je rentrai dans ma chambre. Une légère poussée suffit à refermer le battant qui se fondit dans le reste du mur et que je ne réussis plus à distinguer malgré un examen attentif. Attentionné, Sire Doré avait fait adjoindre quelques couvertures de laine rêche à l'étroit lit de camp du minuscule réduit sans air où je devais loger, et malgré ma fatigue, je trouvais la perspective de coucher là extraordinairement peu attrayante. Je songeais qu'il m'était toujours possible de retourner dans la salle d'Imbre pour dormir dans son superbe lit, puisqu'il ne s'en servait plus. Mais cette idée me répugnait elle aussi, pour d'autres motifs. Qu'Imbre l'eût utilisé récemment ou non, ce lit restait le sien. La salle de la tour, les cartes, les casiers à manuscrits, le laboratoire aux instruments mystérieux et les deux âtres, tout cela appartenait à Imbre, et je n'avais nulle envie de me l'approprier en m'y installant. Non, mieux valait ma petite chambre de domestique. La couche dure et le manque d'air me rappelleraient de façon réconfortante que mon séjour devait être très bref. Au bout d'une seule soirée passée à parler de secrets et de machinations, j'en avais déjà par-dessus la tête de Castelserre et de la politique. Mon paquetage et l'épée de vérité se trouvaient sur le lit. Je fis rouler mon sac par terre, appuyai l'arme contre un mur, poussai sous la table d'un coup de pied les habits dont je m'étais dépouillé, soufflai la bougie et me couchai à tâtons. Je chassai résolument de mon esprit de voir, le vif et toute pensée qui se rapportait à ce sujet, pensant m'endormir aussitôt. Mais je restais bien éveillé, les yeux grands ouverts dans le noir. Des soucis d'ordre plus personnel m'avaient rattrapé et me rongeaient. Mon garçon et œil de nuit devaient avoir pris la route de Castelserre le soir même, et je m'apercevais, troublé, que je comptais désormais sur heure pour prendre soin du vieux loup qui lui avait toujours servi de protecteur. Il avait son arc et il savait le manier, tout irait bien, sauf s'il tombait nez à nez avec des bandits. Heure aurait sans doute le temps d'en éliminer un ou deux avant de se faire capturer, ce qui mettrait probablement les autres en fureur. Œil de nuit, lui, se battrait jusqu'à la mort pour empêcher Heure d'atterrir entre leurs mains. Je me retrouvais donc avec un joyeux tableau à l'esprit. Mon loup gisant mort sur la route, et mon fils prisonnier de bandits bavant de rage. Et moi, trop loin pour leur prêter main forte. La laine démange encore davantage quand on transpire. Je roulais sur le flanc, les yeux toujours ouverts sur l'obscurité. Non. Il ne fallait pas que je pense à Heure. À quoi bon s'inquiéter de ce qui n'a pas encore eu lieu? Sans que je l'eusse voulu, Mon esprit se tourna de nouveau vers les manuscrits sur l'art qu'Imbre m'avait montrés et la situation problématique où nous nous trouvions. Je m'attendais à ce que mon vieux maître me soumît 3 ou 4 parchemins, mais il en avait plusieurs coffres pleins, à divers stades de conservation. Lui-même ne les avait pas tous lus intégralement, mais il pensait avoir plus ou moins réussi à les trier par sujet et par niveau de difficulté. Il m'avait amené devant une grande table sur laquelle étaient déroulés 3 manuscrits, et je m'étais alors senti saisi d'angoisse. La calligraphie de 2 d'entre eux était si archaïque que j'arrivais à peine à la déchiffrer. Quant au 3e, il paraissait plus récent, mais je m'étais heurté presque dès l'abord à des termes et des expressions qui n'avaient aucun sens pour moi. On y recommandait une transanticula et l'usage de l'infusion d'une plante appelée rave des bergers, dont je n'avais jamais entendu parler. Plus loin, le texte m'avertissait de prendre garde à ne pas diviser la barrière du soi de mon partenaire, car je risquais alors de diffuser son anima. J'avais levé un regard égaré vers Imbre, qui avait aussitôt deviné mon problème.
« J'espérais que tu saurais ce que signifie ce charabia, » avait-il dit d'un ton accablé.
J'avais secoué la tête. Si Galen connaissait le sens de ces mots, il ne me l'a jamais appris. Imbre avait eu un grognement méprisant.
« Je doute fort que notre soi-disant maître d'art ait seulement été capable de lire ces caractères. »
Il avait soupiré.
« La moitié de l'apprentissage d'un art consiste à comprendre le vocabulaire et le jargon de ceux qui le pratiquent. Avec du temps, nous parviendrons peut-être à les reconstituer en nous aidant d'indices puisés dans les autres manuscrits. Malheureusement, le temps nous fait défaut. À chaque seconde qui passe, le prince s'éloigne peut-être davantage de Castelserre. »
À moins qu'il n'ait même pas quitté la ville. Imbre, vous m'avez bien souvent mis en garde contre le fait d'agir pour le simple fait d'agir. Si nous nous précipitons, nous risquons de partir dans la mauvaise direction. D'abord la réflexion, ensuite l'action. Répéter à mon maître ses propres conseils m'avait fait un effet étrange. À contre-cœur, il les avait acceptés d'un hochement de tête. Tandis qu'il examinait les textes archaïques en marmonnant, puis les transcrivait sur papier, j'avais soigneusement étudié le manuscrit le plus facilement lisible, puis je l'avais relu dans l'espoir d'une meilleure compréhension. À la 3e lecture, je m'étais surpris à piquer du nez sur les vieux caractères à demi effacés. Imbre avait alors tendu la main pour serrer mon poignet avec douceur.
« Va te coucher, mon garçon, » m'avait-il dit d'un ton bourru. « On est abruti quand on manque de sommeil. Or, cette tâche va exiger que tu sois au mieux de tes capacités intellectuelles. »
J'avais reconnu la vérité de ses paroles et je l'avais laissé pencher sur sa plume. Je me retournai sur le dos. J'avais attrapé des courbatures à force de monter et descendre des escaliers. Ma foi, puisque le sommeil me fuyait, autant essayer de mettre cette insomnie à profit. Je fermai les yeux pour oublier les ténèbres oppressantes de ma chambre et je me préparai. Je vidai mon esprit de tout sujet d'inquiétude et m'efforçai de me rappeler le dernier rêve où j'avais vu le garçon et sa Marguette. J'évoquais l'exultation que leur procuraient la nuit et la chasse. Je réveillais mes souvenirs des odeurs qui imprégnaient l'air et cherchais à retrouver l'aura indéfinissable d'un rêve qui n'était pas le mien. Enfin, je parvins aux portes du songe, prêt à y pénétrer, mais ce n'était pas mon but. Mon objectif était de percevoir un lien d'art si ténu que je n'en aurais pas été conscient à l'époque. Le prince de voir. Le fils de mon corps. Aucune impression ne se rattachait à ces descriptions, et pourtant, curieusement, elles gênaient mes efforts. Les idées préconçues que j'avais de devoir, les idéalisations possessives que je m'étais faites de ce fils inconnu se dressaient entre moi et les fragiles filaments du lien d'art que je m'efforçais de désenchevêtrer. Venu de je ne sais où, une bribe de mélodie parcourut l'ossature de pierre du château pour parvenir à mes oreilles. Distrait par cette musique inattendue, je battis des paupières, puis ouvris les yeux. J'avais perdu toute notion du temps. La nuit s'étendait à l'infini autour de moi, et l'horreur me prit soudain de ma chambre sans fenêtre, coupée du monde naturel, et de cet enfermement auquel j'étais contraint. J'avais vécu trop longtemps avec le loup pour supporter ma situation sans regimber. Empli d'une rage impuissante, j'abandonnai l'art et tendis mon vif vers mon compagnon. Les défenses qu'il avait récemment dressées autour de son esprit étaient toujours en place. Je sentis qu'il dormait, et comme je faisais pression sur ses murailles, je perçus le tonnerre sourd de la douleur dans sa croupe et son échine. Je m'écartai vivement quand je m'aperçus qu'en me concentrant sur ses élancements, je ne faisais que les ramener au premier plan de sa conscience. Toutefois, je n'avais capté chez lui ni terreur ni inquiétude, seulement de la fatigue et des douleurs articulaires. Je l'enveloppai dans mes pensées, épuisé avec bonheur dans ses sens.
« Je dors !» ronchonna-t-il.
Puis il me demanda
« Quelque chose te préoccupe ?»«
Ce n'est rien. Je voulais seulement m'assurer que vous alliez bien. »
« Oh, on ne peut mieux. Nous avons passé une journée délicieuse à nous dessécher sur une route pleine de poussière, et maintenant nous dormons dans le fossé qui la borde. »
D'un ton plus amène, il ajouta
« Ne te tracasse pas pour ce que tu ne peux pas changer. Je te rejoindrai bientôt. »
« Veille sur heure pour moi. »
« Naturellement. Dors. »
Je humais l'odeur de l'herbe humide, du filet de fumée de leur feu de camp, et même de la sueur salée dehors, allongée non loin d'œil de nuit. Tout allait donc bien dans mon univers. Je vidais mon esprit de tout, sauf de ces sensations simples, et je finis par sombrer dans le sommeil.
Puis-je te rappeler que c'est toi qui dois me servir de valet, et non le contraire ?
Ces mots qui me réveillèrent brutalement avaient été prononcés avec la morgue sarcastique de Cire Dorée, mais le sourire qui les accompagnait était celui du fou. Des vêtements étaient drapés sur son bras, et je sentis la fragrance d'une eau chaude et parfumée. Lui-même était impeccablement habillé d'un costume dont la discrétion l'emportait encore en élégance sur sa tenue de la veille. Crème et vert chasse, avec un fin liseré doré au poignet et au col. Il arborait aussi un nouveau clou d'oreille, un petit globe en filigrane d'or dont je savais ce qu'il cachait. Il paraissait frais et dispos. Je me redressai dans mon lit, puis serrai mes tempes douloureuses entre mes mains.
« Tu as une migraine d'art ?»
me demanda-t-il d'un ton compatissant. Je secouai la tête et la douleur roula sous mon crâne.
« J'aimerais mieux, »
marmonnai-je. Je levai les yeux vers lui. « Je suis fatigué, c'est tout. » « J'avais pensé que tu dormirais peut-être dans la tour. » Je ne m'en sentais pas le droit. Je me levai, puis voulus m'étirer, mais mon dos se bloqua en protestant. Le fou déposa les habits sur le pied de mon lit et s'assit parmi mes couvertures en bouchon.
« Alors, as-tu quelques idées sur l'endroit où chercher notre prince ?»«
J'en ai trop. Il pourrait se trouver n'importe où en serre, voire en être déjà sorti à l'heure qu'il est. De trop nombreux nobles pourraient avoir un motif de l'enlever, et s'il s'est sauvé de son propre chef, cela ne fait que multiplier les possibilités. » L'eau pour la toilette fumait encore dans une simple vasque de terre cuite. Quelques feuilles de citronnelle flottaient à sa surface. Avec soulagement, j'y plongeai le visage et le frottai de mes deux mains. Je me sentis aussitôt mieux réveillé et l'esprit plus clair.
J'ai besoin d'un bain.
Est-ce que les thermes derrière la caserne des gardes existent toujours ?
Oui, mais les domestiques n'y ont pas accès. Méfie-toi de tes anciennes habitudes. En général, les serviteurs personnels passent derrière leur maître ou leur maîtresse pour prendre leur bain, ou alors ils s'en préparent à nouveau en allant chercher l'eau aux cuisines.
Je le regardais. Je préparerai le mien ce soir. Et j'employais au mieux l'eau de la vasque tandis qu'il me regardait en silence. Alors que je me rasais, il déclara calmement « Il faudra te lever plus tôt demain matin. Tout le personnel de cuisine sait que je me réveille de bonne heure. » Je me tournai vers lui, consterné. Et alors ?
Et alors, on s'attendra à voir mon valet descendre chercher le plateau de mon petit déjeuner ?
Peu à peu, je saisis les sous-entendus de sa phrase. Il avait raison. Il fallait que je me coule mieux dans mon rôle si je voulais découvrir des indices utiles. « J'y vais tout de suite, » dis-je. Il me retint d'un geste.
« Pas avec cette tête-là. Cire Dorée est un homme orgueilleux aux caprices imprévisibles. Jamais il ne garderait à son service un domestique à l'aspect aussi négligé. Il faut te donner l'apparence de ton personnage. Viens par ici. »
Je le suivis dans la pièce principale, lumineuse et aérée. Il avait disposé sur la table un peigne, une brosse et une paire de ciseaux, et dressé un grand miroir. Je rassemblais mon courage face à l'épreuve à venir, puis allais vérifier que la porte d'entrée était bien verrouillée
pour prévenir toute intrusion intempestive, et enfin m'assis sur une chaise, prêt à me faire couper les cheveux ras, comme le veut la coutume pour les serviteurs. Je dénouai ma queue de guerrier, tandis que Cire Dorée s'emparait des ciseaux. Puis, je jetai un coup d'œil à mon reflet dans son cadre ornementé. J'eus du mal à reconnaître l'homme que je vis. Se regarder tout entier dans un miroir est une curieuse expérience, et je m'aperçus qu'Astérie avait raison. Je paraissais beaucoup plus vieux que mon âge. Me reculant légèrement, j'examinais mes traits, et je m'étonnais de constater à quel point ma balafre s'était estompée. Elle restait visible, mais beaucoup moins qu'autrefois sur le visage lisse d'un jeune homme. Sans rien dire, le fou me laissa un moment pour m'observer. Puis, il prit mes cheveux d'une main. Je regardais son reflet dans la glace. Il se mordillait la lèvre, manifestement en proie aux angoisses de l'indécision, et puis, brusquement, il reposa les ciseaux qui claquèrent sur la table. « Non, » déclara-t-il d'un ton catégorique. « Je ne puis m'y résoudre, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Il reprit son souffle et renoua vivement ma chevelure en queue de guerrier. « Essaie les habits, » me dit-il d'un ton pressant. « J'ai dû choisir la taille à l'œil, mais nul ne s'étonnera qu'un serviteur arbore un costume mal coupé. » Je retournai dans la petite chambre pour examiner les vêtements étendus sur le pied de mon lit. Taillés dans le classique drap bleu distinctif de la domesticité de Castelserre, ils n'étaient pas très différents de ceux qu'on me fournissait pendant mon enfance. Cependant, quand je les enfilais, mon impression changea. Cette tenue que j'endossais me désignait aux yeux de tous comme un serviteur. Je me répétais qu'il s'agissait seulement d'un déguisement, que je n'étais en réalité le serviteur de personne. Puis, avec un brutal serrement de cœur, je me demandais ce qu'avait ressenti Molly la première fois qu'elle s'était retrouvée dans la robe bleue d'une servante. Bâtard ou non, je n'en restais pas moins fils de prince, et jamais je ne m'étais imaginé vêtu d'une livrée de laquais. À la place de mon cerf loin-voyant chargeant, tête baissée, il y avait l'emblème brodé du seigneur doré, un faisan d'or. Toutefois, le costume était à ma taille, et comme je le reconnus d'un ton lugubre, cela faisait des années que je n'avais pas porté des vêtements de cette qualité. Le fou passa la tête par la porte entrebâillée, et l'espace d'un instant, je crus distinguer de l'inquiétude dans son regard. Mais, en me voyant accoutré, il eut un sourire espiègle, puis, comédien comme toujours, il tourna lentement autour de moi pour m'examiner.
« Ça ira, Tom Blaireau. Des bottes t'attendent à la porte, de 3 bons doigts plus longs que les miennes, et plus larges aussi. Mieux vaut que tu fourres tes affaires dans le coffre. De cette façon, si l'on vient fouiner chez nous, rien n'éveillera les soupçons. »
J'obéis en hâte, pendant que le fou mettait rapidement de l'ordre dans sa propre chambre. Je parvins à cacher l'épée de vérité dans le coffre, bien que mes vieux vêtements suffisent à peine à la recouvrir. J'étais aussi à l'aise dans mes bottes qu'on peut l'être dans du cuir neuf. Elles s'assoupliraient avec le temps.
« Inutile que je te rappelle le chemin des cuisines, je pense, » fit le fou.
« Je prends toujours mon petit déjeuner dans ma chambre, sur un plateau. Les aides seront ravis de voir que c'est toi qui te charges désormais de me le porter. Ça te donnera peut-être l'occasion d'échanger quelques mots avec eux. » Il se tut un instant. « Dis-leur que j'ai peu soupé hier soir, que j'ai une faim de loup ce matin, et rapporte de quoi manger pour deux. » Recevoir des ordres de sa part me faisait un curieux effet, mais je me rappelais qu'il valait mieux m'y habituer. Je m'inclinai donc maladroitement devant lui et répondis par un « Oui, maître », un peu forcé, avant de me diriger vers la porte de ses appartements. Un sourire commença d'apparaître sur ses lèvres, mais il l'effaça vivement et hocha lentement la tête. Le reste du château était déjà bien réveillé. Les domestiques s'affairaient, remplaçaient les chandelles, balayaient les roseaux défraîchis, couraient ça et là avec du linge propre, des seaux et des cuvettes pour les ablutions matinales. Peut-être cette impression provenait-elle de mon nouveau point de vue, mais il me semblait beaucoup plus nombreux que dans mes souvenirs, et ce n'était pas le seul aspect de Castelserre qui avait changé. La patte montagnarde de la reine Kétrikène était plus évidente que jamais. Au cours de ses années de présence, elle avait haussé le niveau d'ordre et de propreté à un point jusque-là inconnu. Les appartements devant lesquels je passais se caractérisaient par un dépouillement et une simplicité qui contrastaient avec la pagaille et la décoration surchargée des décennies précédentes. Les tapisseries et bannières rescapées ne montraient plus de traces de salissure ni de toile d'araignée. Les cuisines étaient cependant restées le domaine réservé de Sarah. Je pénétrais dans l'atmosphère imprégnée de vapeur et d'arômes, et ce fut comme si je franchissais une porte qui me ramenait à mon enfance. Comme Imbre me l'avait décrit, la vieille cuisinière demeurait campée dans un fauteuil et ne courait plus de table en table, ni d'âtre en âtre, mais les repas de Castelcerf continuaient visiblement à se préparer comme autrefois. Avec un effort, je détachai mon regard de l'ample forme de Sarah, de crainte qu'elle ne le remarque et qu'elle ne me reconnaisse par quelque intuition. Prenant une attitude humble, je tirai la manche d'un marmiton pour lui faire part de ce que désirait le seigneur Doré pour son petit déjeuner. Le garçon me désigna du doigt l'emplacement des plateaux, de la vaisselle et des couverts, puis fit un geste qui englobait les différentes cheminées.
« C'est toi son serviteur, pas moi »
fit-il d'un ton sec, sur quoi il se remit à couper des navets en cubes. Soulagé, je me composais néanmoins une expression renfrognée, et j'eus bientôt garni un plateau de l'équivalent de deux petits déjeuners copieux. Là-dessus, je m'éclipsais. Remontant chez le fou, je me trouvais à mi-chemin de ses appartements quand une voix familière frappa mon oreille. Je m'arrêtai, puis regardai par-dessus la balustrade, et j'eus un sourire involontaire. La reine Kétriken traversait à grandes enjambées la salle en dessous de moi, suivie d'une demi-douzaine de dames qui s'efforçaient vaillamment de soutenir son allure. Je n'en connaissais aucune. Toute jeune, la vingtaine à peine dépassée, elles n'étaient encore que des enfants à mon départ de Castelcerf. Les traits de l'une d'entre elles me parurent vaguement familiers, mais j'avais peut-être simplement côtoyé sa mère. Mon regard se porta sur la reine. La chevelure lumineuse de Kétriken, toujours superbement dorée, avait été nattée, et les tresses enroulées au sommet de sa tête formaient une couronne. Un bandeau d'argent ceignait son front, et elle portait une robe feuille morte, recouverte à partir de la taille d'une cotte dans les mêmes tons dont le bas bruissait à chacun de ses pas. Ces dames de compagnie s'inspiraient de la simplicité de son style sans parvenir à l'imiter, car c'était la grâce innée de Kétriken qui donnait toute son élégance à sa tenue sans prétention. Malgré les années, elle avait conservé une attitude et des gestes à la fois fermes et spontanés. Elle avançait d'une démarche décidée, mais je discernais une certaine fixité dans ses traits. Une partie d'elle-même n'oubliait pas un instant que son fils avait disparu, et pourtant, elle continuait à se comporter en souveraine devant la cour. À sa vue, mon cœur cessa de battre, et je songeais à la fierté que Vérité aurait éprouvée devant cette femme. « Oh, ma reine » fis-je tout bas. Elle s'arrêta net, et il me sembla presque l'entendre prendre une brusque inspiration. Elle tourna la tête de tous côtés, puis leva les yeux et m'aperçut malgré la distance qui nous séparait. Dans les ombres de la grande salle, je ne pouvais distinguer son regard bleu, et pourtant, j'en eus l'impression. L'espace d'un instant, nous restâmes les yeux dans les yeux, mais je ne lus sur son visage que de la perplexité, sans nul signe qu'elle m'eût reconnu. Je sentis un petit coup sec sur mon crâne. Je pivotais face à mon assaillant, trop stupéfait pour me mettre en colère. Un gentilhomme de la cour, plus grand que moi, me toisait de tout son haut, avec un air révolté, et il dit d'un ton pincé.
« À l'évidence, tu es nouveau à Castelcerf, Rusto. Ici, les domestiques n'ont pas le droit de regarder la reine avec ton effronterie. Vague donc à tes affaires, et rappelle-toi quelle est ta place, sans quoi tu n'auras bientôt plus de place à te rappeler. »
Je baissai les yeux sur le plateau entre mes mains, en m'efforçant de maîtriser mon expression. La fureur bouillonnait en moi, et je savais qu'elle avait rougi mon visage. Il me fallut toute ma volonté pour détourner le regard et acquiescer de la tête. « Pardon, messire, je ne l'oublierai plus. » J'espérais qu'il verrait de l'humiliation et non de la rage dans le son étranglé de ma voix. Les doigts crispés sur les bords du plateau, je repris mon ascension des marches tandis qu'il poursuivait sa descente, et je me retins de jeter un coup d'œil par-dessus la balustrade pour voir si ma reine me regardait m'éloigner. « un domestique, » me répétais-je. J'étais un valet soumis et stylé. J'arrivais de la campagne, mais avec de bonnes recommandations, donc j'étais un serviteur bien élevé, habitué à la discipline, habitué à l'humiliation, à moins que... Quand j'avais pénétré dans Castelcerf en compagnie de Sire Doré, je portais à la hanche l'épée de Vérité dans son fourreau usagé. Ce détail n'était sûrement pas passé inaperçu. En outre, mon hâle et les cicatrices qui couturaient mes mains me désignaient comme un homme accoutumé à vivre au grand air, plus que derrière des murs. Puisque je devais tenir un rôle, mieux valait le rendre crédible. Il fallait que je puisse non seulement le jouer de façon convaincante, mais aussi le supporter. Arrivé devant la porte de cire dorée, je frappai, attendis poliment que mon maître eût le temps de se préparer à me recevoir, puis entrai. Le fou regardait par la croisée. Je refermai soigneusement la porte derrière moi, mis le loquet, puis déposai le plateau sur la table. Tout en disposant les affaires du petit déjeuner, je déclarai au fou qui me tournait le dos. « Je suis Tom Blaireau, ton valet. On m'a recommandé à toi en me décrivant comme un homme qui a reçu, d'un maître indulgent, une éducation supérieure à son rang, et qui a gardé sa place grâce à ses talents de bretteur plutôt qu'à cause de ses manières. Tu m'as embauché parce que tu cherchais un serviteur qui puisse te servir aussi bien de garde du corps que de valet. On t'a rapporté que je suis d'un naturel ombrageux et emporté à l'occasion, mais tu as accepté de me prendre à l'essai pour vérifier si je réponds à tes attentes. J'ai 42 ans. J'ai reçu les blessures dont je porte les cicatrices en défendant mon dernier maître contre 6 bandits de grand chemin que j'ai tous tués. Je suis un homme qu'il vaut mieux ne pas provoquer à la légère. Quand mon dernier maître est mort, il m'a laissé un petit legs qui m'a permis de vivre simplement. Mais aujourd'hui, mon fils est en âge de travailler et je souhaite le placer comme apprenti à Bourg-de-Castelserre. Tu m'as persuadé de reprendre mon métier de domestique afin de couvrir mes dépenses. Le seigneur doré s'était détourné de la fenêtre et, les mains élégamment croisées, il avait écouté mon monologue. Il hocha la tête.
« Cela me plaît, Tom Blaireau. Quelle idée brillante! Le valet de cire dorée est un homme nimbé d'une aura de danger. Quelle impression je vais faire quand on saura que j'ai engagé un tel individu? Tu feras l'affaire, Tom. Tu feras très bien l'affaire. »
Il s'approcha de la table et je lui présentai sa chaise. Il y prit place, puis examina le couvert et les plats que je lui avais apportés.
« Parfait. Tout est exactement à mon goût. Continue ainsi, Tom, et je vais devoir augmenter tes gages. »
Il leva les yeux vers moi. « Assieds-toi et partage mon petit déjeuner, » proposa le fou. « Mieux vaut que je m'exerce aux bonnes manières, messire. De la tisane. » L'espace d'un instant, le fou me regarda d'un air horrifié. Puis le seigneur doré prit une serviette et se tapota les lèvres.
« S'il te plaît. »
Je remplis sa tasse.
« Ce fils dont tu m'as parlé, Tom, je ne le connais pas. Il se trouve à Bourg-de-Castelserre, c'est bien cela ?»
Je lui ai dit de m'y suivre, messire. Et je me rendis compte, alors, que je n'avais guère fourni à Heure davantage de précision. Il allait arriver en compagnie d'une ponette âgée et fatiguée, attelée à une carriole branlante qui transportait un loup vieillissant. Or, je n'étais même pas allé chez la nièce de Gina pour la prévenir de sa venue. Et si elle se froissait de ma présomption? Après tout, rien ne me disait qu'elle accepterait de le recevoir. Comme une déferlante inattendue, mon autre vie me rattrapa soudain. Je n'avais rien prévu pour Heure. À part Gina, il ne connaissait personne d'autre qu'Astéry à Bourg-de-Castelserre, et j'ignorais si elle y résidait alors. En outre, sachant la tension qui existait entre elle et moi, il était peu probable que le garçon s'adresse à elle pour l'aider. Il fallait que je trouve la maison de la sorcière des haies afin de m'assurer que Heure y recevrait bon accueil. J'y laisserai un message pour lui. Il fallait aussi que je demande sans tarder à Imbre de pourvoir à son avenir. Étant donné ce que je savais à présent, le marché que je comptais proposer à mon vieux maître me parut celui d'un cœur insensible, et le courage me manqua. Je pouvais toujours emprunter la somme au fou, mais cette idée aussi me fit horreur. J'aurais voulu m'enquérir du montant de mes gages, mais ma langue resta paralysée.
Cire dorée écarta sa chaise de la table. « Tu es bien silencieux, Tom. Quand ton fils arrivera, je compte bien que tu me le présenteras. Pour l'instant, je crois que je vais te laisser cette première matinée. Fais un brin de toilette, puis familiarise-toi avec le château et ses alentours. »
Il m'examina d'un œil critique des pieds à la tête.
« Va me chercher du papier, une plume et de l'encre. Je vais te rédiger une lettre de crédit pour Scrandon, le tailleur. Tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à trouver son échoppe. Il l'a connue autrefois. »
Qu'il prenne tes mesures pour de nouvelles tenues, certaines pour tous les jours, d'autres pour les occasions où j'aurai besoin que tu présentes bien.
Si tu es garde du corps aussi bien que valet, il me paraît convenable que tu te tiennes derrière moi lors des dîners officiels et que tu m'accompagnes lorsque je sors à cheval. Fais aussi un saut chez Croy. Il tient une armurerie près de la ruelle au forgeron. Fouille parmi ses épées d'occasion et trouve-t'en une qui te convienne. »
J'acquiesçais à chacun de ses ordres, puis j'allais chercher de quoi écrire dans un petit bureau qui trônait dans un coin. Dans mon dos, le fou reprit à mi-voix.
« Ici, au château de Castelserre, les risques sont trop grands qu'on reconnaisse le travail de Hod et l'épée de vérité. Je te conseille de laisser cette arme dans la vieille salle de la tour d'Imbre. »
Sans le regarder, je répondis « Très bien. J'irai aussi voir le maître d'armes pour lui demander de me fournir un partenaire d'exercice. Je lui dirai que j'ai un peu perdu la main et que vous souhaitez que je me réaffûte. Avec qui le prince de Voir s'entraînait-il ? » Le fou le savait. C'était le genre de renseignement qu'il connaissait toujours. Il s'assied à son bureau d'écriture.
Son professeur était Foncresson, mais il le faisait souvent travailler avec une jeune femme appelée Valarie. Cependant, tu ne peux pas la demander par son nom. Cela paraît très bizarre. Dis au maître d'armes que tu aimerais un partenaire qui se bat avec deux épées, afin d'améliorer ta défense. Je crois que c'est la spécialité de Valarie.
Très bien, merci. Pendant quelque temps, la plume du fou gratta activement le papier. Une fois ou deux, il leva les yeux vers moi pour me regarder d'un air méditatif qui me mit mal à l'aise. Désœuvré, j'allais jeter un coup d'œil par la fenêtre. La journée s'annonçait magnifique, et je regrettais de ne pas l'avoir pour moi seul. Je sentis une odeur de cire fondue, et me retournant, je vis Cire Dorée qui fermait ses missives à l'aide de son seau. Il laissa les cachets refroidir un peu, puis me tendit les lettres.
« Et maintenant, c'est le tailleur et l'armurier. Pour ma part, je pense que je vais faire quelques pas dans les jardins avant de me rendre au salon royal sur invitation de la reine afin de...
Je l'ai vu. Étricane. » Je m'étranglais sur un petit rire amer. Quand je repense à nos aventures, le réveil des dragons et le reste, j'ai l'impression qu'elles ont eu lieu il y a bien longtemps. Et puis, il se produit un petit rien et il me semble alors que ça s'est passé hier. La dernière fois que j'avais aperçu Kétricane, elle chevauchait Vérité le dragon et nous souhaitait bonne route. Et voici que je l'ai revue ce matin et la réalité m'a sauté tout à coup au visage. Il y a bien plus d'une décennie qu'elle règne ici en souveraine. Je me suis retiré des affaires du royaume pour me laisser le temps de me remettre, et aussi parce que je jugeais impossible de continuer à y participer. Mais, à présent que je suis revenu, je regarde ce qui m'entoure, et j'ai le sentiment d'avoir raté ma vie. Pendant que je coulais des jours solitaires, loin de tout, le monde poursuivait son chemin ici, sans moi, et je suis désormais condamné à rester un étranger dans ma propre maison.
Les regrets sont vains, dit le fou. Si tu veux agir, commence ici et maintenant. Et puis, qui sait, ce que tu as appris de ton exil volontaire se révélera peut-être constituer la pièce dont nous avons besoin.
Et pendant que nous parlons, le temps s'enfuit sans nous attendre.
En effet, dit Cire Dorée. D'un geste, il indiqua la penderie. Mon manteau, blaireau, le vert.
J'ouvris les portes de l'armoire, extirpai le vêtement demandé d'entre ses nombreux semblables, puis refermai les battants du mieux que je pus sur la masse débordante d'habits. Je tins le manteau devant moi comme j'avais souvent vu Charim le faire pour Vérité, et j'aidai le fou à l'enfiler. Il tendit les bras vers moi pour que j'ajuste les manchettes, après quoi je tirai les pans du bas afin qu'il tombe convenablement. Une lueur amusée scintilla un instant dans les yeux du fou.
« Très bien, blaireau, »
murmura-t-il. Puis, il se dirigea vers la porte et attendit que je l'ouvre à sa place. Une fois qu'il fut sorti, je mis le loquet et terminai rapidement les restes refroidis du petit déjeuner avant d'empiler plats, assiettes et couverts sur le plateau. Je jetai un coup d'œil au bureau fermé du fou, puis allumai une chandelle, pénétrai dans ma petite chambre et fermai la porte derrière moi. Sans la bougie, je me serais trouvé dans une obscurité absolue. Il me fallut un moment pour localiser le poussoir qui relevait la clenche, puis deux ou trois tentatives infructueuses avant d'appuyer sur le bon emplacement du mur opposé. L'épée de vérité à la main, et malgré les protestations de mes jambes pleines de courbatures, J'empruntais la multitude d'escaliers qui menaient à la tour d'Imbre, et je laissais l'arme appuyée contre un mur, dans l'angle qu'il formait avec la cheminée. Revenu dans les appartements du fou, je finis de débarrasser la table. Quand je me regardais dans le miroir, le plateau du petit-déjeuner entre les mains, je vis un domestique de Castelcerf. Je poussai un petit soupir, songeais que je devais faire attention à garder les yeux baissés et sortis. Avais-je vraiment craint qu'on me reconnût, à peine aurais-je remis les pieds à Castelcerf? La réalité s'avérait bien différente. On ne me voyait même pas. Un coup d'œil à ma tenue de serviteur et à mon attitude soumise, et les courtisans me chassaient de leur esprit. Les autres domestiques coulèrent vers moi quelques regards en biais, mais ils étaient pour la plupart occupés à leurs propres tâches. Quelques-uns me saluèrent, et je répondis avec empressement à leur amabilité. Il me faudrait cultiver des relations parmi eux, car presque rien n'échappe aux serviteurs de ce qui se passe dans une grande demeure. Je rapportai le plateau aux cuisines, puis quittai le château. Les gardes m'interpellèrent pour la forme, et je me retrouvai rapidement sur la route escarpée qui descend à la ville. Il faisait beau, et il y avait de la circulation. L'été semblait décidé à s'attarder encore un peu. Je rattrapai un groupe de servantes attachées à des dames de la cour et ralentis l'allure pour demeurer derrière elles. Elles me jetèrent un ou deux regards soupçonneux, puis ne me prêtèrent plus aucune attention. Je passai le reste du chemin à écouter avidement leur bavardage, mais je n'y découvris rien d'inquiétant. Elles parlaient des festivités qui accompagneraient les fiançailles du prince et de la tenue de leur maîtresse pour l'occasion. La reine et Imbre avaient donc réussi à camoufler l'absence de devoir. Dès que je fus en ville, j'entrepris d'obéir aux instructions du seigneur Doré, tout en gardant néanmoins l'oreille tendue, à l'affût du moindre propos en rapport avec le prince. Je trouvai l'atelier du tailleur sans difficulté. Comme me l'avait dit le seigneur Doré, j'avais connu la boutique autrefois, lorsqu'elle abritait la chandellerie de Molly, et j'éprouvais une impression curieuse en poussant la porte. L'artisan accepta sans hésiter ma lettre de crédit, mais se montra plus réticent quand il apprit que Sire Doré exigeait que la confection de mes tenues fût achevée au plus tôt.
« D'un autre côté, il me paie assez cher pour me rembourser le sommeil de cette nuit. Vos livrées seront prêtes demain. »
Je déduisis d'autres remarques de sa part, qu'il avait déjà travaillé pour Sire Doré. Je montai sur un tabouret bas et le laissai prendre mes mesures. Il ne me posa aucune question, car mon maître avait détaillé dans sa note ce qu'il souhaitait pour son serviteur, et immobile dans le silence de l'atelier, je me demandais si je percevais réellement une odeur de cire et d'herbe aromatique, ou bien si j'étais le jouet de mon imagination. Avant de quitter la boutique, je demandai à l'homme s'il connaissait une sorcière des haies à Bourg de Castelcerf, car je désirais savoir si ma nouvelle position augurait bien de mon avenir. Il secoua la tête d'un air dédaigneux devant mes superstitions de paysan, mais me conseilla tout de même de me renseigner du côté de la ruelle au forgeron. Cela me convenait à merveille puisque ma course suivante devait m'amener chez Croy. Parvenu à destination, je m'étonnais que Sire Doré eût seulement entendu parler de l'échoppe, mais ni mélo indescriptible d'armes et de pièces d'armure usagées. Pourtant, là aussi le propriétaire accepta la lettre de mon maître sans hésitation. Je pris mon temps pour dénicher une épée à mon goût. Je la voulais simple et bien faite, mais c'est naturellement ce que recherche tout homme d'armes digne de ce nom. Et c'était donc les pièces les plus rares chez Croy. Après avoir tenté d'attirer mon attention sur plusieurs armes remarquables, munies de gardes tarabiscotées et de lames tout à fait quelconques, il finit par baisser les bras et me laisser fureter seul dans son bric-à-brac. Je n'en oubliais pas pour autant de lui débiter un flot continu d'observations sur les changements intervenus dans la ville depuis ma dernière visite. Je n'eus guère de mal à l'inciter à me faire part des derniers commérages, puis à l'aiguiller sur le sujet des prédictions, des présages et de ceux qui en faisaient métier, et il me parla enfin de Gina sans même que j'eusse à mentionner son nom. Je portais mon choix sur une épée digne de mes compétences de bretteur un peu rouillée, et devant laquelle Croy émit un grognement désapprobateur. «
Votre maître a de l'or à ne plus savoir qu'en faire, mon brave. Prenez une arme un peu plus clinquante, avec une garde qui ait de la gueule !»
Je secouai la tête. « Non. » Je ne veux rien qui risque de s'empêtrer dans mes vêtements si l'affaire devient trop chaude et vire au combat rapproché. Je m'en tiens à celle-ci, mais je vais vous acheter aussi un poignard. Je dénichai rapidement ce dernier article et quittai la boutique pour me retrouver assailli par les bruits de martèlement et les bouffées d'air torride caractéristiques de la ruelle des forgerons. Les coups de marteau des artisans concurrents faisaient un contrepoint étourdissant à la chaleur écrasante du soleil d'été. J'avais oublié la cacophonie incessante des villes. Tout en marchant, je réfléchis, cherchant à vérifier s'il n'existait pas d'incohérence entre ce que j'avais dit sur moi-même à Gina et l'histoire nouvellement réécrite de ma vie. Et je finis par juger que l'ensemble tenait à peu près debout. Si un détail paraissait contradictoire à la sorcière des haies, ma foi, elle me prendrait pour un menteur et voilà tout. Je me gourmandais, étonné de la gêne que cette idée suscitait en moi. Croy m'avait décrit une enseigne représentant une main blanche sur fond vert sombre, et je voyais à présent que toutes les lignes de la paume avaient été tracées en rouge avec beaucoup de talent. Suspendues aux avancées du toit bas, plusieurs amulettes tournaient en cliquetant dans le soleil. Heureusement pour moi, aucune ne paraissait destinée à repousser les prédateurs, et il ne me fallut qu'un petit moment pour deviner leur but. C'étaient des charmes de bienvenue qui m'attiraient vers la maison. Tout d'abord, personne ne répondit lorsque je frappais, puis la moitié supérieure de la porte s'ouvrit, et c'est Gina elle-même qui m'accueillit.
« Tom Blaireau ! »
s'exclama-t-elle en me dévisageant, et je me réjouis de constater que ni ma queue de guerrier, ni mes vêtements neufs ne l'avaient empêché de me reconnaître. Elle ôta aussitôt le loquet de la porte basse.
« Entrez donc, bienvenue à Bourg de Castelserre. Me permettez-vous de m'acquitter de ma dette d'hospitalité envers vous ? Entrez, entrez !»
La chaleur d'un accueil sincère est l'un des plus grands réconforts de la vie. Gina me prit par la main et m'entraîna dans la fraîche pénombre de son logis, comme si ma visite n'avait rien d'inattendu. La pièce où elle me conduisit était basse de plafond et meublée sans prétention. Une table ronde en occupait le centre, entourée de plusieurs chaises, et sur des étagères proches étaient disposés les outils dont Gina se servait pour son métier, ainsi que plusieurs amulettes recouvertes d'un linge. Il y avait des plats garnis sur la table. J'avais interrompu son repas. Je m'arrêtai embarrassé. Je ne voulais pas vous déranger.
« Pas du tout. Asseyez-vous et partagez mon déjeuner. »
Tout en parlant, elle s'installa elle-même à table et je ne pus que l'imiter.
« Et maintenant, dites-moi ce qui vous amène à Castelserre. »
Elle poussa un plat vers moi, sur lequel étaient disposées plusieurs tartelettes à la confiture, du poisson fumé et du fromage. Je pris une tartelette afin de me donner le temps de réfléchir. Mon hôtesse avait dû remarquer ma tenue de domestique, mais elle attendait que je décide de mon propre chef de lui en expliquer la raison. Cette attitude me plut. J'ai trouvé une place à Castelserre comme valet de cire dorée. J'avais beau savoir que c'était faux, j'eus du mal à prononcer ces mots. Jamais je n'avais mesuré à quel point j'étais orgueilleux avant de devoir jouer le larbin du fou. En partant de chez moi, j'ai dit à Heur de me rejoindre quand il le pourrait. À ce moment-là, mes projets n'étaient pas encore arrêtés. Il est possible qu'il vienne chez vous quand il arrivera. Puis-je vous laisser un message pour lui afin qu'il me retrouve au château ? Je me préparais aux questions que Gina allait inévitablement me poser. Pourquoi avais-je soudain pris cet emploi ? Pourquoi n'avais-je pas amené Heur avec moi tout simplement ? Comment étais-je entré en relation avec Cire Doré ? Mais au lieu de cela, son regard s'illumina et elle s'exclama.
« Avec grand plaisir ! Toutefois, j'ai plus facile à vous proposer. À son arrivée, je loge Heur chez moi et je vous fais prévenir au château. Il y a une petite chambre à l'arrière où il peut s'installer. C'était celle de mon neveu avant qu'il ne se marie et ne s'en aille vivre avec sa belle. Laissez-lui un jour ou deux pour visiter Bourg de Castelserre. Il avait paru s'y plaire beaucoup lors de la fête du printemps. Et puis, vos nouveaux devoirs ne vous laisseront sans doute guère de temps pour l'accompagner vous-même. »
« Il en serait ravi, j'en suis sûr, » répondis-je avant d'avoir pu réfléchir. Il me serait beaucoup plus facile de jouer mon rôle de valet de cire dorée si Heur restait à l'écart. La raison de ma présence à Castelserre, c'est que j'espère gagner assez pour lui payer un bon apprentissage. Je monte. À l'instant où je percevais cet avertissement, un grand charroux sauta sans effort sur mes genoux. Je le regardais stupéfait. Jamais aucun animal n'avait communiqué aussi clairement avec moi par le biais du vif, sauf ceux avec lesquels j'avais été lié. Jamais non plus aucun animal avec qui je venais d'avoir un échange d'esprit à esprit ne m'avait ensuite dédaigné aussi complètement. Les pattes de derrière sur mes cuisses, celles de devant sur la table, le chat n'avait d'yeux que pour les plats qui restaient. Une queue en panache ondulait devant mon visage.
« Fenouille, veux-tu cesser, petit mal élevé ? Viens ici !»
Gina se pencha par-dessus la table pour me débarrasser du chat, puis elle reprit la conversation en se rasseyant.
« Oui,
Eure m'a parlé de ses ambitions, et il est bien plaisant de voir un jeune homme entretenir des rêves et des espoirs.
« C'est un brave garçon, » dis-je avec ferveur, « et il mérite l'occasion de se faire une bonne existence. Je serai prêt à tout pour lui. »
À présent dressée sur les genoux de Gina, Fenouil avait les yeux braqués sur moi. « Elle m'aime mieux que toi. » Et il déroba un bout de poisson au bord de l'assiette de sa maîtresse.
« Est-ce que tous les chats se montrent aussi grossiers que toi avec les inconnus ?»
répliquai-je. Il se retourna pour heurter de la tête, dans un geste possessif, la poitrine de Gina. Ses yeux jaunes avaient une expression hautaine.
Les chats parlent comme il leur plaît, à qui il leur plaît, mais seul un humain sans éducation parle quand il doit se taire. Tais-toi. Je te l'ai dit, elle m'aime mieux que toi.
Et il tourna la tête vers Gina.
Encore du poisson.
C'est évident, fit mon hôtesse. Et je m'efforçais de me rappeler ce que je lui avais dit, tout en la regardant déposer pour le chat un morceau de poisson au bord de la table. Je savais qu'elle n'avait pas le vif. Le chat mentait-il quand il prétendait que tous ses congénères parlaient? Je ne connaissais guère ces animaux, car il n'y en avait pas dans les écuries de Buric. Nous avions des chiens ratiers pour éliminer la vermine. Gina se méprit sur mon expression préoccupée et elle reprit avec une pointe de compassion dans la voix.
Il ne doit quand même pas être facile de quitter son propre logis et de cesser d'être son propre maître pour se rendre en ville et devenir valet, même quand on se met au service d'un homme aussi raffiné que Sire Doré. J'espère qu'il est aussi généreux pour vos gages que lorsqu'il descend faire des achats à Bourg de Castelserre.
Je me forçais à sourire. Vous le connaissez donc ?
Elle acquiesça de la tête. Le hasard veut qu'il se trouvait dans cette même pièce il y a un mois à peine. Il désirait une amulette pour préserver sa garde-robe des mythes. Je lui ai avoué que je n'en avais jamais confectionné dans ce but-là, mais que je pouvais toujours essayer. Et il s'est montré fort gracieux pour un homme de son rang. Il me l'a payé rien que sur ma parole. Ensuite, il a voulu voir tous les talismans de ma boutique. Et il m'en a acheté 6, pas moins, 6. Un pour faire des rêves agréables, un autre pour être d'humeur joyeuse, un troisième pour attirer les oiseaux. Ah, il a paru presque envoûté devant celui-là. On aurait dit qu'il était lui-même un oiseau. Mais quand je lui ai demandé de me montrer ses mains pour accorder les amulettes sur sa personnalité, il m'a répondu que c'était des cadeaux qu'il comptait offrir. Je lui ai suggéré de m'envoyer les destinataires afin d'accorder leur présent sur eux. Mais aucun ne s'est présenté jusqu'ici. De toute façon, mes amulettes opéreront très bien, telles que je les ai créées. C'est toute la différence entre un talisman fabriqué à la chaîne et un talisman préparé par un maître. Or, je me considère comme un maître dans mon art.
Oui, monsieur.
Devant mon air surpris, elle avait glissé une pointe de dérision dans ses derniers mots et nous éclatâmes de rire à l'unisson. J'éprouvais pourtant un certain remords à me sentir aussi détendu.
Vous avez apaisé mes craintes, déclarai-je. Je sais que Heur est un bon garçon et qu'il n'a plus guère besoin de moi désormais. Cela ne m'empêche pas, malheureusement, de toujours redouter le pire pour lui.
Ne faites pas comme si je n'étais pas là,
lança Fenouil, menaçant, et il sauta sur la table. Gina le prit et le posa par terre, d'où il remonta sur ses genoux d'un bond gracieux. Sa maîtresse se mit à le caresser d'un air absent.
Cela fait partie du rôle de père, répondit-elle avec assurance, ou de celui d'ami.
Une expression étrange passa sur ses traits.
Je ne suis pas exempte de préoccupations ridicules, moi non plus, même quand ce ne sont pas mes affaires.
Et elle braqua sur moi un regard franchement spéculatif, qui dissipa chez moi toute impression de détente.
Je vais m'exprimer sans détour, me prévint-elle.
Je vous en prie, répondis-je, alors que je souhaitais de toute mon âme qu'elle se tût.
Vous avez le vif.
Ce n'était pas une accusation, mais plutôt une sorte de diagnostic, celui d'une maladie qui défigure ses victimes. Mon métier m'amène à voyager beaucoup, peut-être davantage que vous-même ne vous êtes déplacé au cours des 5 dernières années. L'attitude des gens a changé envers les vifiés, Tom, et la situation est devenue affreuse partout où je suis passé. Je n'en ai pas été personnellement témoin, mais j'ai appris que, dans une ville de Bauges, on a exposé les cadavres démembrés des vifiés que des habitants venaient de tuer, en ayant pris soin de placer les tronçons de corps dans des caches séparées, afin de les empêcher de se réunir pour revenir à la vie.
Je conservais un visage impassible, mais j'avais l'impression de me glacer peu à peu de l'intérieur. Le prince de voir. Qu'il eût été enlevé, ou qu'il se fût enfui, hors de l'enceinte protectrice de Castelserre, il courait de grands dangers dans un pays où l'on était capable de pareilles atrocités. « Je suis une sorcière des haies, » reprit Gina d'une voix douce, « et je sais ce que c'est d'être née avec la magie dans le sang. On ne peut rien y changer, si fort qu'on le veuille. Mieux encore, je sais ce que c'est d'avoir une sœur qui n'avait pas ce don. Elle me paraissait jouir d'une si grande liberté parfois. Quand elle regardait une amulette confectionnée par mon père, elle ne voyait que des perles et de petits bouts de bois entremêlés, sans jamais en capter le moindre murmure, ni ressentir le moindre tiraillement. Les heures que je passais près de mon père à m'imprégner de son savoir-faire, elle les passait en compagnie de ma mère dans la cuisine. Quand nous avons grandi, la jalousie est devenue mutuelle, mais nous faisions partie d'une même famille et nos parents ont su nous enseigner à accepter nos différences réciproques. » Elle sourit à ses souvenirs, puis elle secoua la tête et son visage redevint grave. Mais, dans le monde extérieur, c'est une autre paire de manches. Certes, on ne me menace pas de m'écarteler ni de me brûler vive, mais je suis souvent la cible de regards mauvais et envieux. Les gens considèrent comme injuste que je possède un don qu'ils n'auront jamais, ou bien ils redoutent que je m'en serve pour leur faire du mal. Ils ne s'arrêtent jamais à songer qu'ils ont eux-mêmes des talents propres qu'ils ne se donnent pas la peine d'apprendre à maîtriser. Cependant, même s'ils me traitent rudement, qu'ils me bousculent dans la rue ou me chassent de ma place du marché, ils n'iront jamais jusqu'à me tuer. Vous n'avez pas cette sécurité. Le moindre faux pas peut signer votre arrêt de mort, et si quelqu'un vous échauffe la bile, ma foi, on ne vous reconnaît plus, et j'avoue que cela me tracasse depuis que je vous ai rencontré. Alors pour apaiser mes inquiétudes, je vous ai fabriqué quelque chose. J'avalai ma salive. Ah, merci. Je n'eus même pas le courage de lui demander de quoi il s'agissait. Je sentais la sueur ruisseler dans mon dos malgré la fraîcheur qui régnait dans la pièce où le soleil n'entrait pas. Gina n'avait pas eu l'intention de me menacer, mais ses propos me montraient que je me trouvais en position vulnérable vis-à-vis d'elle, et je m'aperçus à cette occasion que ma formation d'assassin avait de profondes racines. « Élimine-la, » me disait cette part de moi-même, « elle connaît ton secret, elle représente donc un danger. Élimine-la. » Je serrai fermement mes mains l'une contre l'autre sous la table. « Je dois vous paraître bizarre, » murmura Gina en se levant et en se dirigeant vers une armoire, « à me mêler ainsi de votre vie, alors que nous ne nous sommes croisés qu'une fois ou deux. » Je percevais son embarras, mais aussi sa résolution à me remettre le cadeau qu'elle avait préparé. « Non, je vous trouve gentille, » répondis-je, ne sachant que dire. Elle avait dérangé Fenouil en quittant sa chaise. Il s'assit par terre, ramena sa queue sur ses pattes et me regarda d'un air furieux. « Et voilà, adieu les genoux, c'est ta faute !» De l'armoire, mon hôtesse rapporta une boîte qu'elle ouvrit sur la table. À l'intérieur, je découvris un enchevêtrement de perles, de tiges de bois et de liens en cuir. Elle le sortit, l'agita légèrement, et l'ensemble se déroula pour former un collier. J'observai attentivement l'objet, mais n'en captai aucune sensation. « À quoi sert cette amulette ? » demandai-je. Elle eut un petit rire. « Pas à grand-chose, je le crains. Elle ne peut pas donner l'impression que vous n'avez pas le vif, ni vous rendre invulnérable. Elle ne peut même pas vous aider à dominer votre caractère. À l'origine, je souhaitais fabriquer un talisman qui vous avertirait si quelqu'un vous voulait du mal, mais il a fini par prendre de telles proportions qu'il ressemblait plus à un harnais qu'à une amulette. Pardonnez-moi, mais mon sentiment premier en faisant votre connaissance a été que vous étiez un personnage assez rébarbatif. Il m'a fallu quelque temps pour vous apprécier, et si Heure ne m'avait pas chanté vos louanges, je ne vous aurais pas accordé une seconde de mon temps. J'aurais vu en vous quelqu'un de dangereux. C'est d'ailleurs ainsi que beaucoup de gens vous ont jugé en vous croisant au marché où nous avons fait connaissance, et vous leur avez donné raison un peu plus tard de manière éclatante. Un homme dangereux, mais pas méchant, je m'en suis rendu compte par la suite. et je vous prie encore de m'excuser de vous donner aussi brutalement mon sentiment. Cependant, votre visage a pris l'habitude de n'exprimer que le côté obscur de votre personnalité, et aujourd'hui, avec votre épée à la hanche et votre queue de guerrier, vous n'avez pas une allure plus amène. Or, la crainte qu'on inspire conduit facilement à la haine. C'est pourquoi je vous ai fabriqué ceci, qui est une variation sur un très vieux charme d'amour. Non pour vous rendre plus séduisant, mais pour inciter les gens à se montrer mieux disposés envers vous. J'espère seulement que mon amulette fonctionnera comme je l'entends. Quand on essaie de créer une variation sur un thème classique, elle manque souvent d'efficacité. À présent, ne bougez plus. Elle contourna mon siège et je vis passer le collier devant mon visage. Sans qu'elle eût rien demandé, je courbai la tête afin qu'elle pût le nouer sur ma nuque. Je ne sentis aucune différence une fois l'amulette attachée autour de mon cou, mais le contact des doigts frais de Gina déclencha sur ma peau d'agréables picotements. Dans mon dos, elle déclara « Je suis contente de moi. Je l'ai fait à la bonne taille. Ce genre de collier ne doit pas être trop lâche, sans quoi il brinque-balle ni étroit au point d'étrangler celui qui le porte. Tournez-vous, que je le vois sur vous à présent. » Je pivotai sur ma chaise. Elle observa le talisman, puis mon visage, et un grand sourire apparut sur ses lèvres. « Ah oui, c'est très bien. Cependant, vous êtes plus grand que je ne me le rappelais. J'aurais dû me servir d'une perle plus fine pour ce... Enfin, peu importe, ça ira. Je pensais devoir effectuer quelques réglages, mais j'ai peur de ramener l'amulette à sa fonction d'origine si j'y touche. Portez-la avec le col relevé, comme ceci, de façon à n'en laisser voir qu'une petite partie. Voilà. Si vous vous trouvez dans une situation où son effet paraît nécessaire, inventez un prétexte pour ouvrir votre col davantage. Si elle est bien visible, vos propos seront plus persuasifs, et comme en ce moment, même vos silences sembleront pleins de charme. Le visage près du mien, elle écarta davantage les pans de mon col. Je levai les yeux vers elle, et une brusque chaleur envahit mes joues. Nos regards se fondirent l'un dans l'autre. « Cela marche vraiment très bien, » dit-elle, et sans se démonter, elle m'offrit sa bouche. Il était inconcevable de ne pas l'embrasser. Ses lèvres tièdes se plaquèrent sur les miennes. Nous nous séparâmes brusquement, avec un sentiment de culpabilité, au bruit d'une poignée qu'on tournait. La porte s'ouvrit en grinçant et je vis une silhouette féminine se découper sur l'éclat du jour. Elle entra en refermant derrière elle.
« Ouf ! Il fait plus frais ici, et dame merci. Oh, excuse-moi, tu étais en séance ?»
La nouvelle venue avait le nez et les avant-bras mouchetés de taches de rousseur, comme Gina. C'était visiblement sa nièce. Elle avait une vingtaine d'années et portait un panier rempli de poissons frais. Fenouil courut l'accueillir et se frotta contre ses chevilles.
« C'est toi qui m'aimes le mieux. C'est vrai, tu le sais. Prends-moi dans tes bras. »
« Non, je n'étais pas en séance. J'essayais une amulette. Elle est efficace, apparemment. » Le ton de Gina m'invitait à partager son amusement. Sa nièce nous regarda tour à tour. Elle sentait une plaisanterie dont elle était exclue, mais elle ne s'en formalisa pas. Elle prit Fenouil et il frotta son museau contre son visage pour marquer quelle était sa propriété. « Quant à moi, je dois m'en aller, » dis-je. « J'ai malheureusement encore plusieurs courses à faire avant de retourner au château. » L'idée de partir ne me souriait guère, mais les tâches que je devais accomplir à Castelserre ne s'accommodaient nullement de mon envie de rester avec Gina. Et surtout, j'avais besoin de temps pour réfléchir à ce qui venait de se passer et à ce que cela signifiait pour moi.
« Il faut vraiment que vous partiez tout de suite ?»
demanda la nièce de Gina. Elle paraissait sincèrement déçue de me voir me lever.
« Il y a bien assez de poissons pour trois, si vous souhaitez partager notre repas. »
Cette invitation impromptue me laissa interdit, tout comme l'intérêt que je lus dans les yeux de la jeune fille.
« Mon poisson, je vais le manger bientôt !»
Fenouil, dans ses bras, posait sur le panier un regard affectueux. « Cette amulette opère vraiment très bien, on dirait, » me murmura Gina, et je me surpris à tirer sur mon col pour le refermer. « Je dois absolument partir, je regrette. J'ai du travail et on m'attend au château. Mais je vous remercie. »«
Alors, une autre fois peut-être ?»
fit la nièce avec espoir. Et Gina répondit
« Une autre fois certainement, ma chérie. Avant son départ, permets-moi de te présenter Tom Blaireau. Il m'a demandé d'attendre l'arrivée de son fils, un jeune ami à moi nommé Heur.
Il est possible qu'il passe un jour ou deux chez nous, et Tom viendra sûrement dîner à ce moment-là. Tom Blaireau, ma nièce, Miskia.
Miskia, enchantée.
J'échangeai encore avec les deux femmes quelques amabilités enjouées, puis je me hâtai de retrouver le soleil et le bruit de la rue. En regagnant Castelserre à grandes enjambées, j'observai les gens que je croisais. Il me sembla qu'ils étaient plus nombreux à me sourire, mais je songeai soudain qu'ils réagissaient peut-être ainsi au fait que je les regardais dans les yeux. En règle générale, je me détournais plutôt des inconnus. Un homme qu'on ne remarque pas est un homme dont on ne se souvient pas, et c'est l'idéal pour un assassin. Certes, je n'étais plus un assassin, mais je décidai tout de même d'ôter le collier de Gina dès mon retour à Castelserre. Attirer les regards bienveillants de parfaits étrangers m'inquiétait davantage que susciter leur méfiance. En haut de la route escarpée, je parvins aux portes de la citadelle, que les gardes me laissèrent franchir. Le soleil était haut dans le ciel bleu et limpide, et si certains parmi la foule qui allait et venait savaient que l'unique héritier de la couronne loinvoyant avait disparu, ils n'en manifestaient rien. Ils vaquaient à leurs tâches ordinaires, et leur seul tracas était ceux d'une journée de travail habituelle. Non loin des écuries, un groupe de garçons de grande taille s'était rassemblé près d'un adolescent rondouillard. Je reconnus un simple d'esprit à son faciès aplati, à la taille réduite de ses oreilles et à sa langue qui apparaissait entre ses lèvres. La peur et l'incompréhension se lisaient dans ses petits yeux, tandis que les autres garçons refermaient leur cercle autour de lui. Un employé d'écurie plus âgé leur lança un regard agacé.
« Non, non, non !»
Je me retournai en quête de l'origine de la pensée qui avait flotté jusqu'à moi, mais en vain, naturellement. Une bribe de mélodie me parvint, affaiblie par la distance, distrayant mon esprit. Un garçon d'écurie qui courait remplir une corvée me heurta, et, devant mon air surpris, se mit à implorer mon pardon de la façon la plus abjecte. Je m'aperçus que j'avais posé la main sur la garde de mon épée. « Il n'y a pas de mal, lui assurai-je, et puis je lui demandai, « Dis-moi, où pourrais-je trouver le maître d'armes à cette heure ?» L'enfant se tut brusquement, me dévisagea, puis sourit.
« Au terrain d'exercice, l'homme, c'est juste derrière le nouvel entrepôt de grains. »
Et il m'indiqua la direction. Je le remerciai et m'éloignai en refermant mon col.